Sao Paulo, comme à Souillac, Antendoc 100.3. Antendoc, radio, pas de frontières.
Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission radio qui vous est proposée par le lycée La Découverte, à la découverte de l'info. Grâce à l'initiative du CDI, en collaboration avec Antendoc, une poignée d'élèves souhaite vous parler actualité à travers la politique, la science et la culture. À la une aujourd'hui, le nouveau gouvernement et les réactions qu'il suscite. Sur une note plus locale, vous entendrez les témoignages des employés du lycée sur leurs conditions de travail. Et enfin, on vous proposera d'en savoir plus sur la communauté LGBTQIA+. Pour terminer, nous mettrons un point d'honneur à la culture, à la découverte des sorties du mois, francophone et international. Commençons tout de suite avec les débats houleux qui soulèvent l'actualité politique. Tristan, Enzo et Juliette, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Vendredi dernier, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Cover, détaille la liste des ministres qui forment le gouvernement d'Elisabeth Borne. Cette liste a révélé certaines surprises qui n'ont pas échappé à l'opinion publique et surtout pas à l'opposition. C'est un gouvernement de continuité de l'inaction climatique, c'était prévisible, affirme le délégué national d'Europe Écologie Les Verts en réaction avec le choix de Macron et d'Elisabeth Borne de conserver plusieurs poids lourds du gouvernement Castex. Cet ordre protocolaire toujours très à droite, comme les qualifie Julien Bayou, en prend pour son grade. Jean-Luc Mélenchon, le représentant de la France Insoumise, poste sur Twitter « Un gouvernement bien libéral, ni audace, ni renouvellement, tout terne et gris. Le mandat Macron 2 commence sur la pointe des pieds, mais dans un mois, tout changera. En accord avec celui de Fabien Roussel, on prend les mêmes et on recommence, qui appelle au vote des législatives le 12 et le 19 juin. » Elisabeth Borne est elle-même critiquée, par exemple par Jean-Luc Mélenchon, qui la qualifie de la figure la plus dure de la maltraitance politique. Ce gouvernement ne fait donc pas l'unanimité dans la sphère politique, mais certainement pas non plus par l'opinion publique.
En effet, Tristan, le fait d'avoir choisi un historien et directeur du Musée national de l'histoire de l'immigration comme ministre de l'Éducation a généré un torrent d'injures racistes envers cet homme noir. C'est principalement sur Twitter que les Français se sont plaints de façon violente sur ce choix trouvé absurde qu'un homme noir puisse représenter la France. Nombreux lui reprochent d'être raciste anti-blanc, puisqu'il aurait participé, il y a quelques années, à des réunions interdites aux personnes blanches. Mais ces réactions racistes viennent aussi des partis de droite et d'extrême droite. Marine Le Pen, par exemple, représentante du parti du Rassemblement National, a exprimé son opinion sur la chaîne BFM TV en disant que ses choix de mettre à la tête de l'éducation nationale un homme qui défend l'indigénisme, le racialisme, le wokisme est terrifiant pour les parents que nous sommes. Nous devons combattre cette politique de déconstruction de la France. Éric Zemmour, représentant du parti Reconquête, a également exprimé son avis sur Twitter, affirmant que Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait déconstruire l'histoire de France. Pape Ndiaye va s'en charger. Néanmoins, la nouvelle première ministre Elisabeth Borne défend, quant à elle, son ministre de l'Éducation, qu'elle considère proche des valeurs républicaines, portées pendant 5 ans par Jean-Michel Blanquer. Invitée au journal de 20h sur TF1 le vendredi 22 mai, elle a déclaré « C'est parfaitement caricatural ce qui ne m'étonne pas de la part des personnes que vous avez mentionnées », faisant référence aux propos de Marine Le Pen, mais aussi d'Éric Zemmour. Les choix de ministre par Emmanuel Macron ont causé un mouvement raciste envers cet historien, mais également créer une remise en question de ses choix, puisqu'il a sélectionné 3 ministres accusés de viol et de masculinisme.
Tout à fait, Enzo. En effet, dans ces 27 ministres choisis, 3 sont accusés de viol et de masculinisme. Tout d'abord, Gérard Darmanin, nommé ministre de l'Intérieur et ancien ministre de l'Économie, est impliqué dans 2 affaires. Dans la première, il est accusé pour viol, abus de confiance et harcèlement sexuel depuis 2017, mais les faits se sont déroulés en 2009. Cette affaire sera classée sans suite. La deuxième affaire est un abus de faiblesse dénoncé en 2018. Ces 2 affaires sont très similaires et regroupent tous les 2 des échanges entre faveur et sexe, autrement dit des abus de pouvoir. Le deuxième accusé est Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui est lui accusé d'outrage sexiste, notamment avec ses propos fortement misogynes énoncés dans les médias comme « Certaines femmes regrettent de ne plus être sifflées » ou bien « À 30 ans, on n'est pas une potiche incapable de dire non à un homme » ou encore « Ce qui était autrefois un râteau est maintenant un délit ». Le dernier, qui est Damien Abad, le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, a fait l'objet d'accusations de la part du journal Mediapart, qui révèle une affaire dans laquelle il est accusé de viol sur deux femmes, datant de 2010 et 2011. Les accusations qu'ont reçues ces ministres ont eu un impact sur l'opinion publique, qui, elle, remet en question le fait de ne pas vérifier les antécédents des personnes du gouvernement et le fait de ne pas passer à l'acte quand il faut les condamner.
La rédaction a ensuite souhaité se pencher à une échelle plus locale, aux conditions de travail des personnes employées au lycée, en interrogeant des membres du personnel qu'on a peut-être moins l'habitude d'entendre et avec qui les élèves n'ont pas toujours de lien, alors qu'ils travaillent tous les jours pour notre scolarité au même titre que les professeurs, par exemple. Et voici leur témoignage.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, alors nous sommes deux surveillantes qui travaillons au sein de la vie scolaire du lycée La Découverte.
Est-ce que vous êtes satisfaite des conditions dans lesquelles vous travaillez ?
Alors il faut d'abord savoir que nos contrats sont des CDD, donc renouvelables pendant 6 ans. Donc ce sont des conditions assez précaires avec un SMIC, des nuits à l'internat. Il y a un texte de loi qui va peut-être nous permettre d'avoir accès au CDI, mais pour le moment qu'il n'est pas encore passé. Donc voilà, ça c'est pour mettre un petit peu le cadre. Après, les conditions de travail, la vie scolaire, c'est un peu là où tout atterrit, les profs mécontents, les parents d'élèves, les élèves aussi. Donc, parfois, on est un peu la dernière roue du carrosse et on a tendance à accuser tous les problèmes et pas forcément être considéré par le reste de l'administration. Donc, ça peut être un petit peu compliqué.
Je vois. Et est-ce que vous auriez des suggestions d'amélioration éventuelles à apporter, que ce soit dans votre sphère de l'établissement ou dans le lycée en général ?
Nous, à la vie scolaire, que ce soit l'équipe des surveillants, on est là surtout pour le bien-être des élèves et pour les aider dans leur quotidien. Et c'est vrai que, bon, après ces deux années avec le Covid, ont été un petit peu compliquées. Et il faudrait remettre ça un petit peu plus, peut-être, au centre et faire en sorte d'aider au mieux les élèves dans leur scolarité, mais aussi dans leur bien-être au quotidien.
Donc, bonjour, donc, je suis l'infirmière donc, du lycée. Alors présenter mon métier, en fait, je suis là pour accueillir les élèves, tout simplement, pour dès qu'ils ont un problème, ils viennent me voir, que ce soit d'ordre physique ou psychologique. Voilà. Donc je suis là essentiellement pour l'accueil des élèves. Et après, je suis également là pour conseiller le chef d'établissement, en tout ce qui est en prévention santé, sécurité au travail, etc. Voilà.
Et j'aimerais bien vous poser une question. Ça serait, est-ce que vous êtes satisfait des conditions dans lesquelles vous travaillez ?
Alors oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait satisfaite des conditions dans lesquelles je travaille, oui, puisque je suis à 80%, mais c'est mon souhait. Donc voilà, le temps de travail, ça m'a été accordé. Et ensuite, voilà, l'établissement est très agréable. Le contact avec les élèves est bien, les parents ainsi qu'avec les parents aussi. Les professeurs également, les CPE. Enfin voilà, le travail en équipe est intéressant, est agréable. Donc oui, tout à fait, je suis très satisfaite de mes conditions de travail.
D'accord. Dernière question. Quelle amélioration apporterez-vous à vos conditions, si vous pouvez ?
Eh bien, donc comme je disais, bon, j'ai pas beaucoup d'améliorations à apporter. Hein. Pour moi, ça se passe bien et donc comme ça, là, je ne vois pas de points spécialement à améliorer, non.
D'accord. Bah, merci beaucoup.
Fex Régine, agent et technicienne.
Est-ce que vous êtes satisfaite des conditions de travail ?
Non, pas très fait.
Non. On peut avoir une raison si vous avez...
Eh bien, comme déjà, bon, il manque beaucoup d'agents. Et... Ah. Ouais.
Est-ce que vous avez des idées d'amélioration pour soit votre filière de métier ou pour le lycée en général ?
Oui, pour le lycée aussi en général et puis pour nous aussi, ça serait bien, ouais.
Vous en avez des idées ?
Non, pas trop.
Pas trop ?
Donc, je m'appelle Franck Lagnier et je suis enseignant. Donc, j'enseigne au lycée professionnel l'anglais, cette année au lycée professionnel, donc La Découverte à De Casseville.
J'ai deux questions pour vous. La première question, c'est est-ce que vous aimez vos conditions de travail ?
Alors, je les aime quand j'ai des effectifs face à moi qui sont réduits. Mais bien souvent, dans ce lycée, j'ai en fait des groupes assez complets. Et du coup, ça pose des problèmes, notamment pour travailler l'oral. Plus il y a d'élèves dans une classe, évidemment, plus c'est difficile de leur laisser du temps de parole et donc de travailler l'oral. Voilà.
D'accord. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez des idées d'amélioration pour votre métier ou pour le lycée en général ?
Vous avez combien de temps ?
Court, rapide et simple.
D'accord, court, rapide et simple. Très bien. Oui, des idées, il y en a pas mal. Elles ne sont pas forcément les miennes, mais elles ont pu être expérimentées ailleurs. Il y en a une qui me tient à cœur en tous les cas, ça serait d'arrêter de mettre en concurrence ou en compétition les élèves. Donc, du coup, de faire en sorte que la coopération entre profs et élèves ne soit pas basée sur les résultats, mais sur l'envie d'apprendre. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on s'aperçoit que quand on a cette optique-là, cette vision-là, c'est aussi plus facile de motiver et les profs et les élèves. Et donc, généralement, on obtient des bien meilleurs résultats. Ce n'est pas le cas du système français. Donc ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, court, rapide, hein, d'accord, vous me connaissez. Le deuxième point, ça serait la façon dont la langue, le langage est perçu. Et de plus en plus, c'est perçu comme un outil, simplement. Or, pour moi, c'est beaucoup plus riche qu'un outil. C'est rentrer vraiment dans une culture, dans la connaissance des habitudes des autres, des façons de faire, des façons de penser des autres. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà. Ça manque un peu, à mon avis, dans notre système.
Merci beaucoup.
Ben, de rien.
Un autre sujet que l'on retrouve dans l'actualité et que la rédaction a souhaité aborder est celui de la communauté LGBT.
LGBTQIA+. C'est pas mon code Wi-Fi, hein. C'est l'acronyme de lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, transsexuel, queer, en questionnement, intersexe, allié, asexuel, pansexuel, plus. Pour quelques sexualités, je vais vous donner trois définitions. Déjà, transgenre. Transgenre, c'est... Par exemple, quelqu'un qui est né fille, mais qui se sent garçon, mais qui ne va pas changer son sexe avec une opération. Alors que transsexuel, c'est la même chose, mais ils changent leur sexualité avec une opération. Et aussi queer. Queer a plusieurs définitions. Dans les années 50, les homophobes utilisaient ce mot pour... insulter la communauté LGBT parce que queer en anglais a une signification, c'est soit bizarre, étrange. Donc ils utilisaient ce mot pour vraiment insulter la communauté LGBT. 30 ans plus tard, la communauté LGBT a décidé de reprendre ce mot pour... il peut être désigné pour citer la communauté entière. Je vais vous dire maintenant les actualités du moment au niveau du groupe de la communauté LGBT. Nous avons la journée du 17 mai, donc la journée Pride contre l'homophobie. Il y a eu un événement pendant la Ligue 1 pour la 37e journée. Un joueur du PSG, Idrissa Gueye, a refusé de porter un maillot pour soutenir justement cette journée. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que... Idrissa Gueye n'a pas vraiment donné de raison de ne pas vouloir porter ce maillot. On pense que c'est parce qu'il est homophobe. Le coach du PSG et Metz n'a pas compris du coup pourquoi il ne voulait pas... C'était vraiment le seul joueur qui n'a pas porté le maillot pour soutenir cette journée. Ça a fait le buzz dans les réseaux, sur Twitter, sur Facebook, enfin partout. Une phrase que je trouve assez intéressante à exploiter, c'est « l'homophobie, ce n'est pas une opinion, mais un délit ». Parce que, personnellement, mon point de vue, je ne comprends pas les gens qui sont homophobes. Chacun a le droit d'être ce qu'il est. Après, il y a eu aussi une publication sur Twitter des drapeaux LGBT, enfin d'un drapeau LGBT dans la rue Promenade des Anglais à Nice. Qui était dans les drapeaux nationaux. Et donc, du coup, les gens trouvent ça inacceptable que, du coup, il y a un drapeau LGBT au milieu des drapeaux nationaux. Il y a beaucoup de chanteurs qui soutiennent la communauté LGBT, comme par exemple Billie Eilish, Angèle ou encore Mika. Il y a aussi les nouveaux emojis qui sont sortis sur... de base, ils étaient sur Apple,
Maintenant, ils sont partout. Ils sont sur Samsung, sur Wiko, sur Huawei. Ils sont partout. Dont notamment un emoji d'un homme enceint qui est vraiment représenté dans les emojis. C'est un des principaux. Voilà, avec un autre emoji, pareil, c'est un homme tenant un bébé avec le biberon. Et le couple gay, lesbienne, en emoji.
Merci, Montréane. Pour clôturer cette émission, on termine sur une note culturelle. Et voici les coups de cœur de la rédaction.
Du côté de l'actualité musicale, personne n'a pu passer à côté du retour fracassant d'Harry Styles, un ex-membre des One Direction, avec l'album Harry's House. Nous avions eu droit à un avant-goût avec le single As It Was, resté au sommet des classements depuis la fin du mois de mars. Et l'album a suivi le même chemin, et le lendemain de la sortie, les 13 titres occupaient les 13 premières places du top titre Spotify. Harry's House d'Harry Styles est disponible sur toutes les plateformes.
Je voudrais parler surtout d'un groupe en particulier, The Neighborhood, qui veut dire le quartier, qui n'est pas forcément connu, mais une musique en tout cas, je pense qu'elle est assez connue, c'est Sweater Weather. Donc du coup, je voulais parler de ça parce qu'il y a beaucoup de groupes ou de chanteurs solos qui ne sont pas assez connus et pourtant on connaît souvent leur musique qui passe soit sur YouTube, Spotify, partout. Et on ne s'intéresse pas souvent aux artistes. Et je voudrais aborder aussi un sujet des gens qui ne respectent pas les goûts musicaux des autres. Donc par exemple les gens qui aiment, le rap et, l'autre qui, et d'autres, la musique japonaise. Ben, ils vont pas respecter ça. Ils vont dire ouais, ça c'est pas à la mode. Il faut pas que t'écoutes ça. Faut que t'écoutes ce qu'on écoute nous, ce qui on va dire à la mode.
Donc ça serait l'idée en fait de la discrimination entre les genres de musique et que peut-être il y a beaucoup de chansons mainstream et ça en efface certaines d'autres. Quant à la scène francophone, ou presque, je vous propose de découvrir notre coup de cœur, November Ultra, chanteuse et musicienne franco-espagnole. Elle nage dans un univers pop et R&B, dans ses trois langues natales et de cœur, l'anglais, le français et l'espagnol. Si vous aimez vous lover dans des chansons douces mais puissantes, dans des textes universels et pourtant si intimes, tout est réuni chez November Ultra. En 2021, elle sort un premier EP, Honey, Please Be Soft and Tender, avec un titre phare, Soft and Tender, donc doux et français, doux et tendre en français, pardon, qui résume assez bien la ligne directrice de l'artiste, qu'elle poursuit dans son premier album, récemment sorti, Bedroom Walls. Écrit entre les quatre murs de sa chambre, ce premier album, premier d'une longue série, espérons-le, est signé d'une main de velours. There's a million
things I want, but there's one thing that I need. It's to see your face tonight when I'm dreaming. There's a million things I want, but you're the one thing that I need. I gotta see your face tomorrow when I'm waking.
Wake up, my darling.
It takes a lot for me to say, but I want you to stay with me. With me. It takes a lot for me to say, but I want you to stay with me. Places where I could be, but all the skies and all the lights and all the nights are in your eyes. There's nowhere else I'd rather be, 'cause now it's easier for me to say that I want you to stay with me. With me.
C'est moins joli en français.
Le coup de cœur littéraire de la rédaction, maintenant, est un roman, La rue qui nous sépare, de Célia Samba, qui est sorti en 2021. La couverture nous a raconté l'histoire d'amour que vivent une étudiante de 19 ans, Noémia, et un sans-abri de 21 ans, Tristan, mais également les embûches qu'ils rencontrent, la manière dont la condition de SDF de Tristan les éloigne malgré eux, la manière dont la rue les sépare. Célia Samba, dans ce roman, met au premier plan la condition des sans-abri, habituellement si marginalisée dans la littérature comme dans la société. Dans le cadre de cette romance, avec beaucoup de réalisme, de justesse et d'émotion, sans romantiser ni caricaturer pour autant. Les personnages restent humains. L'auteur aborde également des sujets tels que les agressions sexuelles et la prostitution, en faisant tomber les préjugés. L'écriture fluide, qui alterne entre les points de vue des différents personnages, nous fait passer par toutes les émotions et m'a pour ma part fait verser beaucoup de larmes. Le roman possède une particularité, c'est qu'il nous propose deux fins, à nous de choisir celle que l'on préfère. La rue qui nous sépare est donc un très beau premier roman, aussi poignant que nécessaire et très prometteur pour la suite. Célia Samba est une auteure à suivre. Elle a d'ailleurs publié un nouveau roman cette année, Nos cœurs aidants.
Et enfin, le cinéma. Alors que la question écologique est au centre des préoccupations, le dernier rapport du GIEC alerte sur la nécessité d'agir. Frédéric Tellier, accompagné de Gilles Lelouch et de Pierre Ninet, ont réalisé le film qui est devenu le film coup de cœur de la rédaction. Un film en adéquation avec les grands enjeux environnementaux actuels et ce fameux rapport. France est une professeure de sport le jour et une ouvrière la nuit. Elle milite contre l'usage des pesticides. Patrick est un avocat parisien, spécialisé dans la question environnementale. Mathias, lui, est un homme d'affaires qui défend les intérêts d'un géant de l'agrochimie. L'acte radical d'un anonyme fait rencontrer ces trois personnes qui n'ont aucun point commun. Un film poignant qui mêle prise de conscience environnementale, lutte de pouvoir, tensions politiques et enjeux sociétaux, qui sort très bientôt en DVD.
Vous êtes bien sur le répondeur de Patrick Favreau, laissez-moi un message, merci.
Vous aurez mon message en vous réveillant. J'ai vécu des années magnifiques avec Margot. On aimait notre travail, fière d'être une agricultrice moderne, comme elle disait. Dans ma région, comme Margot, les gens meurent en silence. Je voudrais juste que vous fassiez entendre mes mots. J'ai plus la force de continuer.
La tétrazine. Une substance absolument inoffensive selon son fabricant, mais que l'OMS a classée comme cancérogène.
Ça fait 3-4 ans que leurs lobbies font tout ce qu'ils peuvent pour détruire tous les programmes de santé publique de l'OMS.
La tétrazine est le désherbant le plus sûr jamais produit.
Le meilleur.
Merci.
Tout le monde le sait et personne dit rien. Et nous, on crève! On crève, putain!
Cultiver sans pesticides se traduirait par la disparition de plus de 30% des volumes produits.
Il faut que vous vous battiez. Notre santé est en danger, nos enfants sont en danger. Certains le savent et nous mentent.
C'est en train de prendre de l'ampleur, hein, j'aime pas ça.
Bonjour monsieur, je peux vous appeler Patrick?
Non, appelez-moi maître.
On a pris connaissance de vos difficultés financières.
On peut sortir de ce dossier par une transaction.
Le dossier Torrent, je vais le défendre jusqu'au bout.
J'admire votre détermination.
Faites très attention à vous.
Les gens sont perdus, Paul. Notre métier, c'est de les rassurer.
J'ai peur.
Je veux croire qu'il y a un autre monde possible, plus honnête et plus humain.
Alors je vous pose la question. Est-ce que les bourreaux gagnent toujours face à leurs victimes ?
C'est la fin de cette émission. Merci à Madame Burger, à Madame Moreau, Frédéric Valentin d'Antenne Doc et bien sûr nos chroniqueurs, Jeanne, Tristan, Juliette, Enzo, Yeva, Morgane.
Mais également à vous, Héloïse, notre rédactrice en chef.
Et merci à vous. Au revoir et à bientôt.